Une grève surprise, bravo. 30 tonnes de barbac sur le carreau alors qu'on meurt de faim à Chandernagor, hurrah. Monsieur Grafouillère, vous êtes un meneur et vos petits camarades des inconscients. Vous semblez oublier en effet, mes amis, que vous n'êtes que des salariés. C'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste. Des chômeurs en puissance. C'est pourquoi, mes amis, si vous avez des revendications de salaire à formuler, vous m'adressez une note écrite et je la fous au panier et on n'en parle plus. Nous sommes bien d'accord?
Oui, monsieur.
Alors, au boulot et à pas vite!
Bah hier, tout planté, tout arrosé ce matin.
Et t'as
tout arrosé.
Et t'as fait quoi maintenant?
Et j'ai remis la bâche dessus pour que ça...
T'as remis, hein?
Ça chauffe, oui, j'ai remis. Hier, je sais d'or. Hier soir, tac, j'ai remis. Ce matin, tout arrosé dedans. Propre.
Ouais, mais pas trop.
J'ai laisse.
Mais non, arrose plus tant que ça sort pas, hein.
Ah ouais, et
faut arroser quand ça sort, après.
Et cet après-midi, je mets des fumées dans le jardin, et demain après-midi, Moon, il monte avec le motoculteur. Une heure de temps.
Vient,
une heure
de boulot. Il vient, t'as dit.
Une heure.
T'as dit
et il mange avec moi demain midi.
Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, bienvenue dans votre magazine de nature et d'environnement, bah, qui n'a pas exactement changé de ton depuis 4 semaines, je vous rassure, avec la technique Clément Vuillet et Alexandre Abergel, et assisté de Jérôme Boulet, c'est toujours Christophe Imbert qui réalise cette émission printanière. Allez, tenez, je vais vous raconter une petite histoire écologique. Les abeilles étaient malheureuses, elles avaient mal à leur travail, à leur âme, car leur boulot, c'est de butiner la vie, puis de revenir dans leur grande ruche ronde et de produire le meilleur miel possible. Et un jour, dans leur ruche, fut un immense chantier plein de bruit. « Ah, bah, on construit une petite ville à l'intérieur, mais vous viendrez vous y réfugier, vous serez toujours bien mieux !» Ah bah c'était absurde, elles se nourrissaient très bien avant le chantier, les abeilles. Oui, mais il faut le faire. Et puis ça a duré. Et puis de l'autre côté, les anciennes prairies furent retournées en champs de maïs car la PAC chimico-destructrice avait passé son rabot. Allez butiner là-dedans après cela. Il y a zéro biodiversité. D'un côté, un grand chantier dont vous n'êtes pas responsable et qui vous asphyxie les ressources et de l'autre, moins de nourriture. Ah bah, je sais pas, pour se nourrir, dit une des abeilles, on pourrait faire de la publicité. Sur le fronton de nos ruches, on pourrait mettre Monsanto et l'ami de la nature. On aurait des revenus qui nous permettraient de soigner notre trou aussi béant qu'un EPR. Non, mauvaise idée. Alors les ouvrières se mirent en grève. Plus de miel, plus de sons jolis, de pollen, de paroles du vent. La reine un peu isolée dans son alvéole en palissandre ne comprenait pas ses ouvriers et ne partageait pas ses idées. Ce fut la guerre avec un gentil gâchis à la clé, une guerre de valeurs. Et les abeilles avaient peur en fait pour la qualité du miel futur. En dehors de la ruche, bah, les gens étaient malheureux sans leur miel quotidien. Et puis la raison, ni celle du plus fort, ni celle du plus faible, juste la raison est revenue avec les vacances de Pâques pour tous en ligne de mire. Alors évidemment, toute ressemblance avec des événements récents ne serait que pure coïncidence. Nous vous avons manqué, mais vous nous avez manqué aussi. Car le miel, on le fait pour vous, pour qu'on soit tous reliés. Bon, bien sûr, durant 4 semaines d'absence, entendre 15 fois Alain Bachung qui saute à l'élastique sur le Vercors, ça peut lasser. Nous aurons même une pensée pour ces malheureuses murènes à qui il a fait une cour répétée et qui ont fini par déposer une main courante pour harcèlement. 24 fois Mrs. Robinson, même si on aime, il y en a marre. Et 18 fois le collectif faux, ah oui. Cela dit, ils parlent tellement vite, les jeunes gens, qu'il faut bien 18 diffusions pour piger les paroles. Et quand on a Guy Marchand entre les oreilles, là c'est sûr, on se dit qu'on écoute bien marche ou grève. Alors nous on aime bien la musique, en général on dit qu'elle adoucit les mœurs, mais 4 semaines à force, bah, parfois ça ressemblait à celle des ascenseurs, c'est-à-dire qu'à la fin on n'écoutait plus vraiment et elle noyait toute pensée sauvage. Donc sur France Inter, vive la musique, mais peut-être plus 24h/24.
CO2 mon amour, Denis Chessou sur France Inter.
Et donc on va se faire du bien parce qu'on va se faire notre ronde de printemps avec nos différents intervenants, correspondants nature un peu dans toute la France. Mais on va commencer quand même par une jolie actualité. Il est là. Bonjour Frédéric Danhé.
Bonjour Denis Chessou.
Alors cher Frédéric Danhé, on va regarder, on va s'intéresser à l'énergie. Évidemment que là on vous bassine pas trop avec la COP21 parce que déjà vous... Voilà, mais on va venir tranquillement en puissance là-dessus. Est sorti un rapport, alors on dit que c'est un rapport qui a été caché, donc est sorti par l'ADEME, sur une France qui pourrait être 100% renouvelable. renouvelable. Le décryptage avec vous, s'il vous plaît.
En effet, c'est un pavé dans la mare. On croyait jusqu'à présent qu'il était impossible que l'on s'électrifiât avec les moulins qui tournent et avec les panneaux qui attendent le soleil entre les nuages. En théorie, c'est possible. C'est ce que montre l'ADEME. Et c'est plus qu'une théorie, c'est une théorie qui était confrontée à la pratique, c'est-à-dire aux contextes sociaux, économique de la chose énergétique,
c'est-à-dire donc, que avec l'acceptabilité sociale,
voilà, l'acceptabilité sociale des champs d'éoliennes, avec une évolution du prix du foncier, parce qu'évidemment si on ne maîtrise pas ça, le foncier va monter en flèche. Parce qu'il faudra mettre des panneaux solaires et des champs d'éoliennes sur la terre agricole, avec l'évolution technologique des technologies qui sont concernées par les énergies renouvelables. Ils ont tenu compte également des différentes options climatiques possibles. La conclusion est simple, c'est on aura du mal à y arriver parce que ce sera complexe, parce que ce seront des choix difficiles,
mais c'est possible. 14% de baisse de la demande quand même.
Voilà, ils tiennent compte, et ça c'est quand même un sacré pari, 14% de baisse de la demande. La demande globalement n'augmente plus que très peu, mais elle ne baisse pas. Là c'est 14% d'ici 2050, c'est un vrai changement culturel, parce que ça veut dire qu'il y a une baisse réelle de la consommation et constante. C'est surtout ça, on l'a souvent dit dans cette émission, baisser la consommation, c'est assez facile, mais que la consommation baisse sur une dizaine d'années, c'est beaucoup plus difficile. Donc, l'objectif est possible, c'est la première fois que c'est prouvé, mais avec beaucoup de facteurs limitants, ce qui rend la réalisation de cet objectif pas du tout impossible, mais difficile.
C'est-à-dire qu'il faut quand même démultiplier après, donc évidemment, les différentes
les sites
sources
de
d'énergie.
Production.
Voilà. Voilà. Il faut mutualiser les moyens.
Il faut parler d'acceptabilité sociale. Dans le scénario idéal, c'est-à-dire 100% d'énergie renouvelable, c'est possible, mais il faut construire 700 gigawatts de sources de puissance possibles. Et à 63%, par exemple, c'est de l'éolien. Ce qui veut dire s'habituer à avoir des mâts d'éoliennes un peu partout devant nos fenêtres, un peu partout à l'horizon quand on habite près de la mer. Et jusqu'à présent, c'est quand même une affaire qui est difficile. Il faut une dizaine d'années d'études simplement pour faire accepter l'idée que des éoliennes puissent pousser devant chez vous. C'est pas gagné.
Alors,
c'est possible, mais pas gagné.
C'est vrai qu'il y a un business de l'éolien qui n'a rien à voir avec l'écologie aujourd'hui et que là aussi, les textes de loi, lorsqu'on vous dit par exemple qu'on pourrait, on pourrait donc planter une éolienne à 1 km, à 1 km et non plus 500 mètres de lieu d'habitation, ça veut dire que ça flingue quand même une partie de la filière.
Évidemment. Donc, quand on parle d'acceptabilité sociale, et on voit bien dans les chiffres 100% d'énergie renouvelable, c'est vraiment une bascule de la société. On passe d'une société nucléaire à une société qui ne l'est plus ou qui ne l'est moins. Et ça veut dire que tout le monde est concerné, au moins visuellement, par la production d'énergie. C'est-à-dire que la production d'énergie n'est plus déléguée à quelques centres très loin de tout. La production d'énergie devient visible à l'échelle d'un trajet en voiture, parce qu'on sera obligé d'avoir des éoliennes ou des panneaux photovoltaïques qui, au sommet des toits, brilleront en plein soleil et pourront gâcher le
donc
paysage.
Donc c'est absolument à l'envers de la culture du corps des mines, donc c'est ça. Donc ce rapport, est-ce que ça gratouille un peu le fond de cuve d'un EPR, par exemple, ça, aujourd'hui?
Oui, l'EPR a un problème avec son fond de cuve, et on voit bien là, vous savez,
alors qu'il est tout neuf.
Alors qu'il est tout neuf. Et on voit pas comment l'EPR pourra recommencer à rayonner.
On parle bien de celui de Flamanville.
On voit mal comment l'EPR pourra commencer à rayonner en 2020, parce que si c'est cette cuve qui n'est pas remplaçable, et bien qui a été installée, si cette cuve, il faut la remplacer, ça va prendre des années. Le problème, c'est qu'Areva a bâti toute sa politique industrielle sur le succès de l'EPR. Là, on voit mal comment cela pourrait être un succès, et il y a un vrai danger que Areva se casse la figure. Et donc, de voir ce rapport arriver qui prouve que finalement, on pourrait peut-être faire sans le nucléaire, ça grince, parce que ce serait le dernier coup de pied qui prouverait que tout l'échafaudage nucléaire ne repose pas forcément sur des bases très solides.
Sans compter qu'on va arriver dans les limites d'âge. Là aussi, la carte vermeille pour les centrales nucléaires, d'ici 2025, on va donc avoir une trentaine de réacteurs qui auront une quarantaine d'années.
Et oui, alors est-ce qu'on les prolonge ou pas? Et si on ne les prolonge pas, qu'est-ce qu'on va faire? On aura moins de nucléaire, on n'aura pas encore assez, si tant est qu'on le décide maintenant, on n'aura pas encore suffisamment de moyens de production d'énergie renouvelable pour éventuellement atteindre cet idéal de l'ADEME qui, je le répète, c'est 2050. Là, on serait en 2025. Mmh. C'est dans 10 ans. Il faut 7 ans pour ériger une éolienne, 10 ans pour tirer une ligne à haute tension. En 2025, on pourra avoir une baisse d'un tiers de notre production électrique. Par quoi on va la remplacer pour l'instant?
Par du charbon et du gaz de schiste.
Comme on a décidé de rien en France, ça pourrait tout à fait la solution de remplacement du gaz de schiste et ensuite charbon en attendant des cieux meilleurs pour 2050. Mine de rien, rapidement, pour fermer cette parenthèse, on voit bien que finalement l'État français n'a décidé de rien. On s'est endormi sur les lauriers nucléaires et on n'a même pas prévu la suite, le remplacement des centrales à la retraite.
Eh ben écoutez, merci pour ce décryptage. De rien, toute façon, vous n'hésitez pas. Il y a des gens qui ne vont pas être d'accord avec ça. Donc, le site de CO de mon amour, de nouveau ouvert. Allez-y, franceinter.fr. Je vous ai promis du printemps. En voici.
Il y a la nature qui est tout en sueur. Dans les hectares, il y a du bonheur. C'est le printemps. Il y a des lilas qu'on n'aime plus le temps de se faire tout mauve ou bien tout blanc, c'est le printemps.
C'est le printemps. Et, ah oui, on l'entend qu'il chante. Nous commençons notre tour de France, de la nature. On va pas aller partout. On va rejoindre Jean-Michel Tellière. Nous sommes en Corrèze, dans le Limousin. Bonjour Jean-Michel.
Bonjour Denis. Bon. Ravi de vous accueillir.
Eh ben, écoutez, grand merci à vous. D'ailleurs, vous nous accueillez tout à fait régulièrement sur France Bleu parce que vous êtes le monsieur nature de France Bleu Limousin. Et là, nous sommes chez vous dans la Saintrie. Ah, alors là, nous sommes à Saint-Bonnet-des-Tours-de-Merle. Joli nom, hein, Saint-Bonnet-des-Tours-de-Merle. Hein.
Oui, accessoirement, c'est le plus long nom des communes du Limousin.
Oui.
Et accessoirement, un joli petit confetti, parce qu'on n'a guère que 590 hectares de surface, donc une toute petite commune peuplée de 40 habitants.
Ben voilà.
C'est ça, vaut le détour.
Alors, il y a les habitants, il y a aussi les animaux et la végétation, donc si on regarde le printemps, qu'est-ce que l'on peut voir là, tranquillement?
Ah, on est privilégié, hein, osons le dire, en Limousin particulièrement, parce que c'est une terre de nature adossée sur le Grand Massif Central, on fait partie de cette entité géographique, mais c'est vrai que la Saintrie et ce territoire où je demeure, on est face à moi, la vallée de la Maronne.
Qui est un affluent de la Dordogne.
Exactement, l'un des principaux affluents de la Dordogne, qui est un site Natura 2000. Donc vraiment des vallées très très sauvages, où la biodiversité y est plutôt préservée, tant au niveau des habitats que de la faune et de la flore remarquables. Et l'un notamment des animaux les plus remarquables, et en même temps assez communs dans ces territoires, c'est le milan royal, un grand rapace qui niche ici, juste derrière chez moi. Et en ce moment, Denis, on l'entend parader au-dessus de la maison, c'est une merveille. Son cri ressemble à...
C'est ça. Ah bah c'est là.
Juste derrière chez moi.
Ils sont arrivés directement dans le studio, donc c'est formidable. Et aussi, éventuellement, depuis donc notre studio, on peut voir passer des grues cendrées. Parce que vous êtes, avec le Limousin, donc sur une zone, on va dire, de trajectoire des grues cendrées pour les migrations.
Exactement. Alors on n'est pas tout seul, hein, puisque tout le grand sud-ouest et le nord-est de la France... Ce sont des privilégiés, des vénards, tout comme nous, qui voient passer sur cette autoroute large de, allez, on va dire 200 km, les grues cendrées qui nous remontent d'Espagne, du sud-ouest de la France, désormais où elles hivernent. Et ça, c'est un vrai spectacle. Et les Limousins, le peuple limousin, même urbain, du côté de Limoges, Brive-Tulle, s'arrête de vivre le temps de voir passer dans le ciel de notre région ces V, ces W, ces chevrons d'oiseaux de quelques 1,20 m de haut. Hein, c'est le plus grand échassier d'Europe après le flamant rose, et surtout d'entendre ces cris. Elles nous disent, amis limousins, ça y est, nous tirons le printemps derrière nous et nous remontons. Et chaque année, c'est un spectacle merveilleux, c'est de la poésie. La nature, ça ne fait pas que s'expliquer, ça se vit, ça se ressent. Et là, en l'occurrence, ça marque les saisons.
La grue fait sûrement le printemps. Est-ce que l'hirondelle fait encore le printemps chez vous?
Eh bien, on dit qu'une hirondelle ne fait pas le printemps. C'est rigolo que vous parliez de ça, Denis, parce que moi, elle est arrivée depuis une semaine, ça y est, alors moi, je suis ravi, toute la famille est à l'affût, elle est posée comme il se doit, telle une petite note de musique sur son fil électrique, vous voyez que ça n'a pas que des inconvénients, les lignes électriques, et donc, c'est le mâle qui est en train de parader tous les matins. Il nous réveille, il attend sa femelle, parce que traditionnellement, elle niche dans notre maison, osons le dire, dans notre grange.
Bah oui.
Et ça aussi, c'est des petits spectacles qui annoncent le renouveau des beaux jours.
Et puis, il faut quand même préciser que vous n'êtes pas loin d'Argentat-sur-Dordogne. Et là, vous avez quand même, vous, cette chance inouïe d'avoir, j'ai presque dire, toutes les marques d'hirondelles.
C'est vrai. Quatre espèces, c'est pas rien quand même. L'hirondelle rustique, c'est celle dont je faisais référence à l'instant, qui a la particularité de nicher dans les granges et les étables des alentours, mais partout en France. L'hirondelle de fenêtre, qui nichait partout sur la commune encore 20 ans ou 30 ans en arrière et qui a complètement disparu sur la commune, mais en effet, à Argentat, on a toutes les espèces communes de France. Donc l'hirondelle rustique, l'hirondelle de fenêtre, l'hirondelle de rivage qui se prend pour un petit lapin en quelque sorte.
Oui, parce qu'elle aime beaucoup les carrières.
Exactement, et elle fait des terriers, donc un terrier dans des sablières, et là en l'occurrence dans les carrières d'Argentat, vous avez raison. Et puis la dernière d'entre elles, qui est assez rare tout compte fait, c'est l'hirondelle de rocher, qui niche pas sur des rochers chez nous, mais sur des barrages hydroélectriques sur la vallée de la Dordogne. Donc en un seul lieu, Argentat-sur-Dordogne, vous avez quatre espèces différentes d'hirondelles.
J'ai un peu envie de voir aussi pousser quelques... voir les bourgeons éclater, où en est-on entre le prunelier et puis d'autres végétaux.
Ben oui, le prunelier, c'est cet arbuste sauvage, notre prunier sauvage en quelque sorte. Ça y est, c'est passé, les petits pétales blancs tels des flocons de neige se sont éparpillés. Par contre, nos prés, parce qu'on est sur une terre d'élevage, de race limousine, race salaire aussi, pas très très loin en Saint-Trie, nos pâturages sont en train de devenir jaunes parce que l'or du pré est en train de fleurir, le pissenlit, et ça aussi, c'est vraiment merveilleux, et en même temps, ces pissenlits qui accueillent la race, je dirais, d'abeilles locales, l'abeille noire, qui profite de cette aubaine.
Grand merci Jean-Michel Tellière d'avoir pris le pouls du printemps dans ce Limousin, et puis à très bientôt. Au revoir Jean-Michel.
Au plaisir, à bientôt.
Et dans quelques instants, eh bien, nous irons en Alsace, nous irons dans les Hautes-Alpes, nous irons en baie de Somme, toujours le printemps, c'est haut de mon amour. Vous êtes bien sur France Inter, ouais.
Je suis né en mai, c'est moi le printemps, d'un vent très épais, j'ai foutu le camp. Mais scarifié, mais en pleurant, mais sacrifié, mais en passant. Je suis né en mai, c'est moi le printemps, j'ai rien demandé, ouais, mais pourtant. J'ai déchiré à grands coups de dents, le fil d'acier m'emprisonnant. Moi le printemps, moi qui rêvais d'hiver tout blanc. Na 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 na. J'ai foutu le camp.
Joli celle-là, donc, de Daniel Darc. Le printemps, bah, c'est notre naissance à nous, c'est aussi extrêmement symbolique. Nous allons partir maintenant en Alsace, avec Alsace Nature, d'ailleurs, qui fête ses 50 ans cette semaine. Donc nous sommes en Alsace, ça veut dire que vous avez de la plaine, vous avez des rides, vous avez la montagne. Et on va rejoindre Stéphane Giraud, qui est le directeur d'Alsace Nature. Alors d'abord, bonjour à vous. Et puisque j'ai parlé de rides, qu'est-ce que c'est les rides ?
Bonjour Denis. Alors les rides, ce sont des milieux prairiaux qui sont issus d'un milieu alluvial, c'est-à-dire des crues des cours d'eau. C'était des prairies qui étaient recouvertes de roseaux, rites en germain, et donc qu'on appelait les rides. Et donc c'était une succession de bosquets, de haies, de prairies avec une flore tout à fait particulière, où on retrouvait le sabot de Vénus, où on retrouvait des espèces comme celle-là, et qui malheureusement ont fondu presque aussi vite que la banquise au cours des dernières décennies.
Mmh. Alors si elles ont fondu, c'est pas complètement le hasard là, hein, on est d'accord, c'est pas le réchauffement climatique quoi.
C'est pas le réchauffement climatique, c'est la modernisation agricole qui a conduit à sécher un certain nombre de ces secteurs, à les retourner et à planter du maïs, qui malheureusement, en termes de biodiversité, est d'une pauvreté sans nom.
Voyons aussi avec vous, Stéphane Giraud, donc au milieu de ce printemps, ce qui a pu croître et embellir, c'est-à-dire qu'est-ce que vous avez réussi à sauver avec ce monde associatif ?
Alors en 50 ans, il y a quand même beaucoup de dossiers, mais je crois que les grands combats, ça a été les forêts rhénanes. Dès les années 70, on mobilisait énormément de gens avec des occupations de terrain déjà à l'époque, les ZAD avant l'heure, et qui ont fait reculer un certain nombre de projets d'aménagement industriel du bord du Rhin et donc la préservation de ces milieux forestiers très particuliers qu'on appelle la jungle alsacienne, puisque c'est des forêts très denses, avec des lianes, avec des arbres majestueux. Même si on n'en est pas complètement sorti, hein, on a encore des projets qui prévoient de couper des bouts de forêt rhénane, mais on continue à porter des dossiers difficiles, douloureux, comme le grand contournement ouest de Strasbourg, comme la fermeture de Fessenheim, que nous espérons tous, comme la mine de Stockamine qui fait peser une menace redoutable sur la plus grande nappe phréatique d'Europe, avec 44 000 tonnes de déchets enfouis sous la nappe et les mines qui sont en train de s'effondrer. Et puis après, des espèces emblématiques comme le grand hamster pour la plaine agricole, le courlis pour les rides, qui sont malheureusement bien loin d'être sauvés.
Pour vous, quel est le symbole du printemps à titre personnel, Stéphane Giraud ?
Ah, pour moi, le symbole du printemps, c'est les premiers martinets. Mmh. Voilà, c'est mes oiseaux fétiches le matin quand je passe à vélo dans Strasbourg et que je les entends crier. C'est du baume au cœur pour aller travailler.
Joli, hein, ces petits martinets. Merci à vous, Stéphane Giraud. Et donc, on vous souhaite un bon anniversaire donc, pour ces 50 ans d'Alsace Nature. Ah, là, notre climat, nous allons descendre vers le sud. On va se retrouver dans les Hautes-Alpes avec un homme que l'on connaît sur les ondes de France Inter. Là, c'était enregistré. Ah bah oui, parce que c'était sur le terrain, véritablement. Vous imaginez une belle vallée, c'est celle de Crévoux, pas très loin du col du Parpaillon. Et là, on va retrouver Christian Couloumi au printemps, en montagne. Allez, encore un petit effort. Ce qui n'est pas très compliqué, je vais vous dire, parce que quand on arrive dans un décor aussi beau que celui-là, dans les Hautes-Alpes pour rejoindre Christian Couloumi. Bonjour Christian.
Bonjour Denis.
Bon, vous êtes toujours chef de secteur ici donc, pour le parc national. On est face à ce massif des Écrins et alors aujourd'hui on va parler de ce printemps. Hein. On fête l'arrivée du printemps, vous le savez, dans ce haut de mon amour. Et il est évident que dans la plaine, ça y est, c'est déjà la fulgurance, le 21 mars est passé, la lumière est là, qui est le premier signal en fait pour la végétation et aussi pour les animaux. Alors, en montagne, ça va être un peu différent. On lève les yeux au ciel, mais avant le ciel, il y a des montagnes, elles sont toutes blanches.
Oui, la différence avec la plaine, c'est que la plaine ici, elle est penchée, et qu'il y a un en haut et un en bas. Et là, on est à peu près au milieu. Au-dessus de nous, il y a la neige encore pas mal de neige. Ouais. Et puis dessous, il y a les premières fleurs. J'ai vu dans le jardin ce matin, il y avait quelques petits crocus qui commençaient à sortir les pétales. Là, on va être à la fois transition de saison, et puis là où se trouve, on est transition aussi en bas, en haut.
Et alors là, vous avez vos jumelles, et alors oui. C'est le moment quand même, le printemps, évidemment, c'est quoi ? C'est les parades nuptiales ?
Alors c'est un éveil effectivement de la nature, et pour pas mal d'espèces, pas toutes, mais une bonne partie, beaucoup se sont fait une beauté. C'est le cas des oiseaux, les mâles, des passereaux en général, arborent leur plus beau plumage, ils ont mué récemment, ils ont des plumes toutes neuves, colorées, et qui vont... je l'espère pour eux, attirer ces dames qui sont plus discrètes.
Voilà, c'est ce que fait d'ailleurs aussi l'avion, l'hélicoptère au-dessus de nous aussi, voilà, tranquillement. Je ne sais pas pour attirer qui.
Ouais, ça, j'ai pris les jumelles et je peux vous dire que c'est un Robinson, cet hélicoptère.
Bon. C'est un mâle ou une femelle, on ne sait pas. C'est...
Vous avez de bons yeux, chef, comme dit l'histoire.
Regardez par vous-même. Bon, et alors, pas loin d'ici, parce que si on est avec vous, c'est parce qu'il y a quand même une aire à aigle. C'est quoi là, ce moment-là pour eux ?
Ils ont pondu il y a peu de temps. Et juste avant, on a observé beaucoup de mouvements. En fait, ils ne se font pas une beauté comme les passereaux. Eux, ils font de la beauté. et il se déplace dans l'air avec beaucoup de facilité, et c'est très impressionnant, des grands piquets, des ressources, et c'est à ce moment-là que bon, ils se sont accouplés là, pendant toute une partie de l'hiver pour resserrer les liens du couple, et peut-être pour que les œufs soient féconds également. Et là, ben, ils sont dans le nid. Alors il y a madame qui passe la plus grande partie de sa journée dans le nid, et monsieur, il se balade autour, il regarde ce qui se passe, il empêche les autres de venir, et puis, comme je vous dis, de temps en temps, il fait le beau en faisant des acrobaties dans le ciel.
Je vais vous renvoyer sur le site de CO2 Mon Amour, vous en avez l'habitude, parce que vous allez voir les photos de Christian Couloumi d'aigle absolument de toute beauté. On revient donc sur ce printemps, mais en fait on ne l'a pas véritablement quitté, là-haut, tout là-haut. Le printemps ce sera quoi? Ce sera mai, juin?
Oui, alors selon que l'on est au sud ou au nord, évidemment, Adret ou Ubac, des choses sont un petit peu différentes. La lumière sera là pour tout le monde, ça c'est important. Les jours qui rallongent et qui sont très longs au printemps, à partir du mois d'avril, là, jusqu'au mois de juin, ça va continuer à grimper.
C'est le premier signal, hein. C'est pas forcément le réchauffement, c'est la lumière.
C'est la lumière d'abord. Et c'est vrai qu'à cette saison, actuellement, au premier printemps, primevère, là, on peut encore voir des chutes de neige jusque dans la vallée. Ouais. Mais c'est cuit maintenant, le soleil il est là longtemps, il est bien placé, c'est-à-dire qu'il est monté, ouais. Il est perpendiculaire, les rayons ont vraiment une action très forte, et c'est ça aussi le printemps. Après ce coup de mauvais qu'il peut y avoir, qu'ils amènent de la neige, eh bien, très rapidement, les choses vont se remettre à leur époque, ils vont entrer dans leur temps. Temps des fleurs, le temps des oiseaux qui vont chanter de plus en plus maintenant. Pas très longtemps, un petit peu quand même, là, pendant un mois et demi, deux mois. Et puis, les premiers arrivés vont se manifester. On attend les pigrièches qui vont arriver un peu plus tard. C'est dans les dernières, avec la fauvette des jardins ici. Alors que les autres auront terminé déjà presque leur reproduction, elles vont simplement arriver d'Afrique, du Sud, et puis s'installer. Donc on est là, une période charnière aussi pour ces oiseaux. Les oiseaux nordiques sont partis, ils sont remontés vers le nord. Et puis ceux qui nous accompagnent toute l'année, les sédentaires, eh ben, sont là tout le temps, comme leur nom l'indique.
Alors on a ce torrent là qui coule pas loin. Et il va vraiment grossir lorsque la fonte sera totalement engagée.
Alors le pire ou le mieux, selon qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ce sera les jours où il fait chaud, évidemment, la neige fond, et s'il pleut par-dessus. Ce qui avait produit il y a quelques années d'ailleurs des crues très importantes qui avaient causé des dégâts, parce que non seulement la neige fond, évidemment alimente tous les cours d'eau, mais l'eau qui vient avec de la pluie, ça augmente le processus. Et là, une goutte qui tombe sur la neige, c'est 10 qui descendent et ça produit des ravages. Donc la neige va fondre très vite, et puis il y a ces effets de fun. Là, la neige, elle n'a même pas le temps de passer dans le... dans son habit liquide, elle passe directement de la neige, donc c'est de la glace la neige, hein, à de la vapeur, directement, elle s'évapore tout de suite, elle se sublime.
On va rappeler que le fun, en fait, ce n'est pas un vent comme l'OTAN, comme le CERS, comme le Mistral ou la Lombarde, c'est un effet que l'on appelle orographique.
Oui, c'est le relief qui provoque ça, et on a tendance à parler de fun, dans les Alpes évidemment, en Suisse particulièrement, mais on vaudrait mieux parler d'effet de fun. C'est une compression des masses d'air qui arrivent sur le versant au vent et une détente sur le versant sous le vent. D'accord. Donc la compression, il pleut, et puis derrière détente, il fait très sec. Et alors là où il fait très sec, tout s'évapore très rapidement.
C'est un régal parce qu'on est véritablement en lisière de mélézin. Donc le mélézin, c'est la forêt de mélèze, hein, qui est bien connue ici dans les Alpes du Sud. On trouve aussi en Haute-Maurienne. Ah oui, vous dites, oh là, 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 oui, interrompez-moi, elle est superbe.
La petite mésange bleue, ouais,
qui
vient de passer autour de côté.
Ça y est, que c'est bien ça aussi. Et alors ce mélézin se met évidemment à roussir de manière très belle à l'automne. Et là, on voit le vert tendre. Qui commence à attaquer.
Alors ça va attaquer tout doucement. Ouais, les aiguilles qui sont des aiguilles de vert tendre, qui sont nombreuses, une vingtaine, 20, 25 aiguilles sur chaque petit plot sur lequel elles poussent, vont émerger et sont en train d'émerger pour certains. Ouais. Les mélèzes n'ont pas toutes la même horloge interne.
Non.
Certains démarrent un petit peu plus tôt. Mais en gros, ce vert tendre là, va se propager depuis le bas de la forêt de Mélèze et va monter progressivement vers le haut. Et ben, après tout, ça va nous signaler le printemps. Depuis la vallée, on voit que le printemps il commence à arriver dans la partie supérieure. Et puis après, ben, le soleil, la température va attaquer ce qui reste, c'est-à-dire la partie de la toundra alpine jusqu'aux crêtes, pour déneiger totalement au mois d'août à peu près pour certains endroits.
C'est bien de rappeler en fait qu'on est sur une plaine qui est renversée, sur une plaine de hauteur, parce qu'en fait on a les différentes humeurs, on va dire, des saisons qui sont contractées en très peu de temps, en très peu d'espace.
Ben c'est un peu la richesse de la montagne, c'est-à-dire qu'on a à la fois cette succession de saisons, ouais, et en même temps une biodiversité qui la suit. Biodiversité végétale, avec des espèces dans la vallée où nous nous trouvons, la vallée de la Durance, pratiquement méditerranéenne. Ouais. Et puis là-haut, des espèces qu'on pourrait qualifier avec un peu de prétention de polaires, quoi. Et pour les animaux, c'est pareil. Alors les fleurs, il leur faut du temps pour faire ça, ça ne bouge pas. Et la végétation, c'est un témoignage du climat et du sol en même temps. Les animaux sont beaucoup plus mobiles. Par exemple, ici, plus bas, là-bas, à 500 mètres à peu près sous nous, on a le lézard au soleil, par exemple, qui est un lézard plutôt provençal. Et puis sur les crêtes là-haut, ben, on va trouver le lagopède, qui est l'emblème de l'altitude.
Et ce qu'on appelle les neiges éternelles, on les voit encore avec le réchauffement?
Il y en a qui sont de moins en moins éternelles. Et Brassens, qui avait repris cette chanson, mais où sont les neiges d'antan?
Oui.
On se pose la question, mais c'est pas lui qui avait écrit cette chanson, ça vient plus loin. Non, donc déjà, il y a très longtemps, on se demandait où sont les neiges d'antan.
Ouais,
et les glaciers, qui sont un peu plus haut, là-haut derrière, ils partent en vrille également, là, ils fondent. Ouais. Les neiges éternelles, ça existe encore, mais c'est vraiment une peau de chagrin qui se réduit de plus en plus, ouais, dans certains du bac d'altitude où il y a eu des accumulations, par exemple sur des avalanches. Là, il y a un gros stock à entamer. Le climat n'arrive pas à bout de ces petits espaces de neige. C'est ça, les neiges éternelles. Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup moins qu'avant.
Bah, c'est bien, comme ça, François Villon va pouvoir réviser gentiment sa copie. Merci beaucoup, cher Christian. Et alors, pour vous, le printemps, allez, un petit signe du printemps de Christian Coulomy. Comment vous savez, comment vous le sentez, qu'est-ce que vous aimez chez lui?
Peut-être c'est sonore aussi, puisqu'on est à la radio, hein, ce sont les chants d'oiseaux. Cet hiver, on a entendu quelques cris comme ça, et puis à partir de maintenant, il va y avoir des solistes, et puis bientôt, il va y avoir le concert complet. Le matin, bonne heure, c'est ça. Depuis le lit, là, j'entends les oiseaux chanter, et c'est super. C'est ça, le printemps aussi.
Et on voit bien qu'il y a eu ce passage de relais. C'est-à-dire que pendant un temps, il y a une résistance, il y a un combat entre le printemps et l'hiver. Et là, l'hiver, c'est que de toute façon, il ne va pas résister très longtemps. Il va encore avoir quelques fulgurances, comme ça, en altitude. Mais c'est fait, quoi.
Ben oui, c'est fait. Mais il prendra bientôt sa revanche dans quelques mois, parce que c'est lui qui va avoir le dessus.
À bientôt, Christian. Merci beaucoup.
À bientôt, Denis. Merci.
Le printemps en montagne avec Christian Coulomy dans les Hautes-Alpes et toujours dans C'est haut de mon amour sur France Inter. On continue ce petit tour de France. On va rejoindre Philippe Carouette qui est en Baie-de-Somme dans le parc du Marcantère en pleine séance de bagages d'oiseaux. Philippe.
Bonjour Denis.
Alors on va parler du printemps avec vous. Et d'ailleurs, il se trouve que vous êtes en train de baguer des oiseaux.
Tout à fait. Là, on a eu une éclaircie après la pluie et c'est l'occasion de mettre les filets pour baguer justement ces oiseaux qui reviennent de migration de printemps, hein, qui reviennent d'Afrique. Donc on va essayer de retrouver leurs petites bagues pour avoir des renseignements puisqu'ils ne nous ont pas envoyé une carte postale.
Et non, c'est ça. Ils vous téléphonent très très rarement. En fait, quel type de renseignements peuvent-ils nous donner?
Alors, c'est d'abord des renseignements de fidélité au lieu de reproduction, hein, puisque les oiseaux sont très fidèles au lieu de reproduction, mais ça faut le prouver. Ils vont retrouver pratiquement le même buisson ou le même bâtiment, si ce sont des hirondelles. Donc ça va être un premier élément. Un deuxième élément, la longévité des oiseaux. Quand on parle qu'un oiseau peut vivre 10 ans, 15 ans, là aussi c'est grâce aux bagues. Et puis aussi les causes de mortalité, puisque s'il y a une partie des oiseaux qui ne reviennent pas, il va falloir justement savoir pourquoi ces oiseaux ne reviennent pas.
Où en sommes-nous, Philippe, dans le parc du Marcantère avec cette arrivée du printemps? Qu'est-ce que l'on voit là?
Alors nous, là, on est justement en pleine période de halte migratoire. Donc il y a des oiseaux comme les avocettes, comme les spatules, comme les cigognes qui s'arrêtent avant de continuer vers le nord. Et puis il y en a d'autres qui ont la Baie-de-Somme comme destination finale et qui vont construire leur nid. On a des spatules qui commencent déjà à pondre tout en haut de la héronnière. On a des petits échassiers comme les huîtriers pies, comme les avocettes, qui commencent à se cantonner sur les îlots. c'est-à-dire qu'elles retrouvent leurs îlots de l'année dernière et elles commencent à faire les nids. Donc, c'est des périodes très actives, très dynamiques. Moi, c'est une période que j'aime beaucoup parce que on est vraiment dans de la redécouverte des espèces que l'on avait un petit peu oubliées, j'allais dire, oubliées dans les terres d'Afrique.
Quel est peut-être, je ne sais pas si c'est l'arbre, le végétal ou en tout cas l'animal qui symbolise pour vous le printemps, mais c'est plutôt à titre personnel parce que vous aimez dire que c'est un ensemble.
Oh, moi, j'irais toujours l'hirondelle. Je reste un grand classique. Là, j'ai une hirondelle qui est revenue chez moi. J'ai bricolé pendant l'hiver une petite trappe sur la porte de mon atelier. Comme ça m'évite de laisser la porte ouverte toute la journée et toute la nuit. Et tout de suite, l'hirondelle est revenue. J'ai vu qu'elle avait une petite bague à la patte. Donc ça reste toujours symbolique. Et je pense que tant que les hirondelles reviendront, on aura toujours cette force du printemps, puis surtout cette force de migration, cette force de la vie. La migration, pour moi, c'est le vivant avant tout. C'est retourner vers la vie, même si l'Afrique, c'était aussi la vie. Hein.
C'est une hirondelle de fenêtre, hein, j'imagine.
Alors là, c'est des hirondelles rustiques parce que j'habite dans une petite maison du Marcantère très basse, donc j'ai pas d'étage. Les hirondelles de fenêtre vont nicher sur les hautes maisons et à l'extérieur.
Exact.
Moi,
d'accord.
C'est dans des bâtiments, une petite maison comme un arbre. Hein.
Et elle se plaît bien, l'hirondelle rustique se plaît bien chez vous.
Ah oui, dans les bâtiments, là j'ai 7 nids. Ben justement, l'hirondelle est souvent en déclin parce qu'on n'accepte plus les hirondelles dans les bâtiments. Il suffit d'un papier journal, puis après on fait le nettoyage de printemps à l'automne quand elles sont parties. Ça fait quelques salissures, mais ça vaut bien le plaisir de les revoir.
Bah oui. Et puis laisser des ouvertures aussi, hein, ça peut être quand même super.
Ah, c'est indispensable, oui.
Merci beaucoup, cher Philippe. Et puis, je vous rends à vos oiseaux que vous allez continuer à baguer. Et là, dans vos filets, qu'est-ce que vous avez là?
Alors là, j'avais eu une petite mésange bleue là, qu'il va falloir que j'aille démailler et baguer. Mais je vous dis, la force du printemps, ça, c'est la force de la vie. Et la défense du vivant, c'est une vraie bannière à porter très haut. Hein.
Merci à vous, Philippe Carouette, donc depuis le parc du Marcantère en baie de Somme. Ah, à la Guadeloupe. Oui. On y sera la semaine prochaine, je vous en dire deux mots, au Terra Festival. Ce sera l'émission depuis la Guadeloupe la semaine prochaine. Oui. FM Lighty, donc nous serons en Guadeloupe, hein, donc la semaine prochaine, on va partir demain à la nage et lundi soir je serai avec les tortues qui vont pondre, donc vous allez avoir évidemment tous ces reportages, ça va être un tout reportage avec nos amis du Terra Festival, je les salue déjà parce que je vais être le parrain de ce beau festival écologique sur place, on va être du côté du Gosier mais en fait on va être aussi sur toute la Guadeloupe avec différents sujets, des beaux sujets, des sujets qui fâchent, etc. Et on va retrouver dans quelques instants, on va être avec Jean-Marie Peul, qui est au pouvoir trouver en direct en Lorraine. Mais auparavant, écoutez ceci.
C'est le printemps. Le printemps, le vrai, pas l'officiel qu'on attendait depuis 6 semaines, mais celui du premier jour des bourdonnements et des bourgeons, des bourgeonnements et des bourdons. Les effluves érotiques sont dans l'air qui sent le mur chaud et la sève des sous-bois. Les jours rallongent, mais il n'y a pas que, dit l'obsédé. Connaissez-vous la charmante manière de se saluer quand nos amis les chiens ? Ils préfèrent se lécher le derrière plutôt que de se donner la main. Comment vas-tu ? Sans dans mon cul, ça va très bien, sans dans le mien. Et tes parents, ça va pas fort ? Et les enfants, reniflent encore.
CO2 Mon Amour avec Denis Chessou sur France Inter.
Oui, c'est un grand moment de poésie pour vous accueillir, hein, de signer bien sûr Pierre Desproges. Bonjour Jean-Marie Pelt.
Bonjour Denis, bonjour à tous.
Eh ben, on est ravis tout plein de vous retrouver. Vous êtes au pied de... Bah, pas au pied, vous êtes dans votre jardin, je sais, avec votre téléphone sans fil, donc chez vous en Lorraine. Alors, on prend le pouls de ce printemps, Jean-Marie, avec chez vous en Lorraine, depuis votre jardin, votre observatoire privilégié.
Alors écoutez, ce printemps est pour moi exceptionnel. D'abord par les oiseaux. On a eu des concerts d'oiseaux extraordinaires. Je pensais au livre de Rachel Carlson, qui est un livre culte de l'écologie.
Le printemps silencieux.
Elle expliquait qu'il n'y avait plus d'insectes et plus d'oiseaux du tout à l'époque du DDT. Eh bien, les oiseaux, ils sont là. Ils ont été vraiment très, très bruyants et très amicaux, puisque j'en vois qui viennent me dire bonjour à la porte de mon bureau. Mmh. Et puis alors, il s'est passé quelque chose de très intéressant, parce que il y avait la grève, figurez-vous. Ah bon. Vous ne savez pas, je suppose.
Ah non, pas du tout. Non, on n'a pas vu ça du tout. Nous, vous savez, c'est...
Pas du tout, naturellement. Et alors, on avait prévu cette émission pour samedi dernier.
C'est vrai.
Et samedi dernier, j'expliquais que on voyait apparaître dans le jardin les prunus, les magnolias, les forsythias, PMF, comme Pierre Manès France. C'est comme ça qu'on peut retenir cette trilogie
des
arbres qui sont les tout premiers à fleurir. Oui. On avait
alors aussi... ça c'est vos références à vous, mais c'est bien. Non, mais c'est bien, d'accord.
Et puis, okay. Et puis on avait aussi des jonquilles et... Elles étaient naines, figurez-vous, j'avais des jonquilles naines, vous n'avez jamais vu ça, je suppose. Moi, je n'ai jamais vu ça non plus, je ne sais pas d'où elles sont venues dans notre jardin, elles étaient là. Et cette semaine, tout a complètement changé, les arbres fruitiers ont explosé avec une vitesse foudroyante, et là, on a pu observer un phénomène très intéressant, c'est que le printemps se déclenche quand les jours commencent à devenir plus longs que les nuits. Mmh. Mais ils se déclenchent plus ou moins rapidement selon la météo. Et comme nous avons eu une météo très chaude et très ensoleillée pendant cette semaine, ça a débourré avec une vitesse extraordinaire et le paysage printanier d'aujourd'hui est déjà complètement différent du paysage printanier de la semaine dernière, au point que je vois mon beau magnolia à l'Institut d'écologie au cloître des Récollets qui commence déjà à perdre ses pétales. Oui. Donc tout ça va très 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 vite et c'est vraiment très spectaculaire et vous savez Denis que la belle est d'érable qui en principe est reverdie à le 1er mai jour de la fête du travail est déjà toute verte et nous ne sommes que le 18 avril je crois.
Donc effectivement ce printemps c'est un peu comme de l'acné bourgeonnant sur le nez d'un adolescent quoi, c'est formidable, c'est les hormones qui parlent dans votre jardin. Et alors quelle matière ça représente quand même ce printemps puisque là je m'adresse aux scientifiques que vous êtes.
Alors écoutez, on peut dire qu'en un mois dans l'hémisphère nord, la nature va produire sous forme de feuilles et aussi sous forme d'accroissement des troncs et des branches 100 milliards de tonnes de matière vivante. C'est extraordinaire. C'est un chiffre extraordinaire, une forte productivité. Et de cela, eh bien, nous aurons évidemment notre nourriture, les herbivores auront leur nourriture, et c'est ce qui est à l'origine de tous les mécanismes vivants sur Terre, grâce effectivement à cette formidable productivité. Alors je me suis dit, comme une hirondelle fait quand même peut-être un petit peu le printemps,
oui.
Que bizarrement, il y avait aussi un printemps dans l'économie, paraît-il.
Ah.
Nos politiques nous expliquent que ça va de mieux en mieux. Personne s'en aperçoit d'ailleurs, non, mais non. Ça c'est une autre question.
Oui.
Mais on dit que ça va de mieux en mieux. Alors je me suis demandé, est-ce que c'est le printemps de l'économie qui tire le printemps de l'écologie, mmh. ou est-ce que c'est le printemps de l'écologie qui tire le printemps de l'économie ?
C'est une très belle note philosophique, Jean-Marie.
J'en sais rien, figurez-vous. Mais la question est intéressante et elle mérite évidemment d'être posée.
Et ben voilà, c'est ce que j'aime avec vous, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas les chutes et c'est formidable. Ce que je vous propose, Jean-Marie, je vais prendre un billet de train et puis on va se retrouver dans votre jardin parce qu'on adore ça et nos auditeurs aussi. Hein. Donc, on va faire ça bientôt ?
Oui, bientôt. Il est très beau.
Mais je sais.
Oh, Denis, il est magnifique.
Ben, alors.
Et le beau cerisier qui est en fleur m'a demandé ce matin où est Denis ?
Ah ben, c'est ça.
J'ai dit, il arrive.
Il va venir. Allez.
Qui va me dire bonjour tous les jours dans mon bureau. Eh ben c'est pareil, il a dit où est Denis ?
Il va venir, ben oui, c'est ça. Merci beaucoup, cher Jean-Marie, à très très vite. Allez, au revoir.
À tout bientôt.
Il y a la nature qui est tout en sueur. Dans les hectares, il y a du bonheur, c'est le printemps. Il y a des lilas qu'on n'aime plus le temps de se faire tout mauve ou bien tout blanc, c'est le printemps.
Et on va passer de l'Alsace à une autre épaule de la France, toujours sur France Inter, c'est Haut de Mon Amour, l'arrivée du printemps, on va rejoindre Charles Brenne. Vous êtes le directeur de Bretagne Vivante, Charles, d'abord bonjour à vous, et vous êtes aussi un ancien marin pêcheur, faut le dire, durable. Et là, et ben dans ce Finistère, nous avons donc, on va peut-être commencer par les ajoncs, tiens, tenez.
Bonjour Denis. Bah c'est vrai que là, avec cette belle semaine qu'on vient d'avoir, on a une côte magnifique, avec notamment effectivement les ajoncs d'Europe qui sont en fleurs, avec ces massifs jaunes absolument incroyables, qui sont d'ailleurs un vrai symbole pour la Bretagne. Mmh. Et ce que peu de gens connaissent, c'est qu'en fait l'ajon est en fleurs toute l'année. Mais pas seulement l'ajon d'Europe, en fait l'ajon d'Europe se passe le relais avec deux autres espèces que sont l'ajon nain et l'ajon de Legal, et ce qui vaut aux ajons la réputation d'amour éternel pour les Bretons.
Pas mal.
Mais malheureusement, cet arbuste épineux n'a pas que une bonne réputation.
Bah non, il est un peu envahissant quand même aussi. Hein.
Il est à la fois envahissant et dans l'imaginaire des Bretons, il a aussi une symbolique un petit peu plus dure, notamment comme le dit l'écrivain breton bien connu Anatole Lebras dans La Légende de la Mort, il serait aussi la zone de purgatoire pour les âmes des défunts avant d'aller au paradis ou en enfer.
Oui, on voit bien. Bon, écoute, on va rester sur des choses un peu plus gaies quand même. Si on regarde aussi, très intéressant, parce qu'on n'est pas très loin des Glénans, là où vous êtes, dans ce Finistère, donc on n'est pas loin du parc naturel régional des Monts d'Arrée. Qu'est-ce que l'on peut dire des narcisses ?
Eh ben c'est vrai que là c'est vraiment, on passe vraiment de la nature ordinaire à la nature extraordinaire en prenant juste le bateau de Concarneau à l'archipel des Glénans et on arrive notamment sur l'île Saint-Nicolas qui est une toute petite île où une toute petite réserve d'1,5 hectare est gérée par Bretagne Vivante depuis des années où se loge une petite plante endémique qui s'appelle le narcisse des Glénans qu'on ne retrouve qu'à cet endroit-là et qui avait quasiment disparu il y a quelques dizaines d'années. Mais grâce à l'activité de nos bénévoles, elle a pu reprendre un petit peu sa place. Et en ce printemps, elle est en fleurs. C'est absolument incroyable. C'est une couleur blanc-crème comme ça qui tapisse toute la lande. Et le week-end dernier, comme chaque année, les bénévoles de Bretagne Vivante sont allés faire le comptage des bulbes de narcisses pour savoir si tout ce qu'on peut mettre en œuvre porte ses fruits, si je peux me permettre. Mmh. Et j'ai une très très bonne nouvelle, c'est qu'on s'aperçoit aujourd'hui, c'est la première fois qu'on va quasiment arriver à 300 000 pieds de narcisses des Glénans. Alors pour avoir un ordre de grandeur, il y a plus de 30 ans, on comptait que 200 à 300 narcisses. Donc c'est une vraie réussite. Pour l'association.
Alors c'est très intéressant parce que d'abord ça nous dit que ça l'envoie de l'espoir, ça veut dire qu'il y a des choses qui sont réversibles. C'est aussi un hommage à tous les bénévoles donc, qui travaillent dans le monde associatif et même s'ils n'y sont pas parce qu'ils mettent vraiment la main au bulbe ou bien aussi à leurs jumelles. Et donc si on regarde le ciel, parce que vous avez la mer qui est juste derrière, alors on connaît le cormoran huppé, mais il y a aussi un autre animal, alors là il est beaucoup plus petit, hein, c'est le pétrel.
Effectivement, le printemps, c'est aussi le retour des ozonicheurs sur nos côtes. Comme vous l'avez dit, Denis, le cormoran huppé, suivi du grand cormoran et des goélands, hein, les trois espèces connues, sont déjà en train de nicher à tour de rôle, mais beaucoup plus rare, beaucoup plus difficile à observer aussi pour nos amis ornithologues, c'est l'océanite tempête, qu'on appelle aussi pétrel, hein, qui est bien souvent connu sur ce nom, et le plus petit oiseau marin d'Europe. Oui. Ça fait pas plus de 40 cm d'envergure. Il est brun-noir et il niche sur des petits îlots. Et notamment, la plus grande colonie de France se trouve sur des petits îlots autour de Molène qui font partie
dans la mer d'Iroise.
Naturelle d'Iroise,
oui.
Voilà, et qui est bien connue. Et il reste, pour vous dire, 600 à 800 couples hein, sur ces îlots. C'est un oiseau qui est vraiment symbolique pour les Bretons et encore plus pour les marins, hein, je pense aux marins pêcheurs, parce que généralement, si on le voit, c'est pas bon signe. D'ailleurs, il est surnommé à bord des bateaux, on les appelle les diaboliques, hein, les pétrels tempêtes. Si on les voit, c'est que le gros temps arrive et on fait tous mieux de rentrer vite à terre pour éviter la tempête.
D'accord, donc c'est pas complètement un baromètre, mais en tout cas, c'est pas loin. Il y a quelque chose que vous observez aussi en baie de Lannion, ça nous ramène sur l'actualité, c'est l'extraction donc du sable coquillé. Monsieur Macron donc a donné l'autorisation d'extraire 250 000 tonnes par an. Quelle est votre réaction ?
Alors moi j'ai vraiment les deux casquettes à la fois en tant qu'environnementaliste et marin pêcheur et des deux côtés pour moi c'est une très très mauvaise nouvelle. Faut savoir que la baie de Lannion est un site extrêmement riche en biodiversité et notamment ces zones sableuses dont on le sait qu'elles sont un refuge pour les juvéniles de poissons et pour certaines espèces. Je pense au lanson qui est un petit poisson comme une anguille brillante et qui est notamment pêché par certains pêcheurs de bar qui pêchent à la ligne avec ce petit poisson là et qui vont se retrouver largement handicapés, voire dans l'impossibilité de pouvoir travailler dans quelques années.
C'est-à-dire que l'on comprenne bien, il va y avoir des eaux qui vont être retournées, donc on va avoir des eaux turbides.
Exactement, en fait, c'est les premiers centimètres de sable qui sont essentiels hein, pour le développement de cette biodiversité marine. Et le fait de remettre en suspension des particules, d'aspirer des quantités de sable phénoménales, vont forcément perturber l'écosystème.
Charles Brenne, juste pour terminer et revenir à ce printemps.
C'est vraiment un mix de jaune des ajoncs avec le turquoise de l'eau qui s'est bien reposé toute cette semaine dernière avec ce beau temps. Il y a vraiment un contraste magnifique et qu'il fait bon être en Finistère en ce mois d'avril.
Merci à vous. Vous voyez, c'est pas mal ce petit tour de France ce printemps. Alors, on s'est un tout petit peu avancé là pour les photos des aigles de l'ami Christian Couloumi. Vous les aurez vers 16h. Il faut que l'aigle quitte son aire et arrive directement après, si vous voulez, sur le net et sur le web. Parce qu'on n'a pas eu le temps de les... Enfin, si, mais c'était un peu compliqué avec la grève. Bon, voilà. Donc, du côté de 16h, vous aurez les aigles, mais vous ne les aurez point avant. Frédéric, peut-être Frédéric Dant, vous avez débuté cette émission, terminé merveilleusement cette émission. Avec aussi actualité. On revient sur le sable coquillé, on rappelle ce qu'est le sable coquillé.
Le sable coquillé, en fait, c'est pas vraiment du sable, c'est juste un tas de coquilles d'animaux marins, de mollusques. C'est pour ça que les agriculteurs... Voilà, donc ça constitue sur des mètres et des mètres d'épaisseur, des kilomètres carrés de surface. Et ce sable coquillé, si on le broie, ça donne du calcaire, du carbonate de calcium, qui est très utile pour ramander les terres qui sont pauvres en calcium, d'où la demande de certains agriculteurs.
Donc c'est pas pour construire, forcément, on est bien d'accord.
Non, c'est pas pour construire, c'est pour amender. Il faut savoir qu'on veut exploiter ce sable coquillé parce qu'on ne peut plus exploiter une richesse en biodiversité bien plus importante qui est le merle. Le merle, c'est une algue calcaire qui se dépose sur les petits fonds et qui, en gros, agrège tellement de biodiversité qu'on peut la considérer comme un récif corallien.
Celui-là n'est pas un merle moqueur, bien sûr.
C'est amusant. Bravo, Denis. Donc, Emmanuel Macron a signé pour une exploitation des sables coquilliers en réduisant ce que demandait l'opérateur Compagnie armoricaine de navigation un prélèvement de 400 000 mètres cubes par an. Il l'a réduit, le ministre, à 250 000 mètres cubes. Interdiction d'une exploitation en été. Et puis, une commission de suivi qui, chaque année, vérifiera les choses. Il n'en reste pas moins que le ministre de l'économie s'est substitué à la volonté des élus et des citoyens de ne pas avoir ce genre d'exploitation. On est un peu dans le syndrome Sivens. Là, c'est même pas la question de savoir si les mesures prises vont atténuer ou pas les désordres écologiques. C'est juste un problème politique. On a un ministre qui s'est substitué à la volonté politique locale. Finalement, là-dessus, au moins, ça ne change pas.
Merci beaucoup, Frédéric Denry. Vous reviendrez pour un autre décryptage, bien sûr, d'actualité. Alors, pas la semaine prochaine, parce que donc, nous serons en Guadeloupe sur le fameux Terra Festival. Hein. Je salue tout de suite nos amis Guadeloupe avec 6 heures de mois, là, aujourd'hui. Donc, on va y être toute la semaine. Donc, on va se rencontrer, on va se régaler, rapporter plein de reportages. Merci à Clément Vuillet et Alexandre Abergel à la technique aujourd'hui. À Jérôme Boulet, à Christophe Imbert qui a réalisé, qui a colorié toute cette émission, à Thierry Dupin qui a choisi les disques, Anne Gouzon qui nourrit les sites de CO2 My Love. Le podcast, vous le connaissez, ça va repasser aussi cette nuit. Vous n'hésitez pas à franceinter.fr, de nouveau, allez-y, lâchez-vous, échangez. Donc le site est à vous. L'actu du Mont-Petit-Loup, ce sera demain à 19h54. Et puis, dans quelques instants, si tenez le répondeur 01 56 40 40 35, 01 56 40 40 35, lui aussi, on l'a remis au travail, il n'y a pas de raison. Et la librairie francophone, ce sera dans quelques instants avec l'ami Emmanuel Quérat. Formidable, nous arrivons sur les tops, on prend de bonnes habitudes, France Inter, il est 15h.